Pour débuter ce message, écoutez. Le soleil ne s'était pas encore levé ce matin-là. Claude ne dormait plus. Il vivait dans une maison non loin du port. Le bruit des navires marchands et des pêcheurs matinaux, il connaissait cela par cœur. Habituellement, cela ne l'empêchait pas de ronfler jusqu'à 8 heures. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il faisait froid. Il faisait humide et froid. Impossible de rester au lit. Alors, il s'est levé, curieux de ce que cette journée allait lui réserver. Il a ouvert la fenêtre pour humer l'air de ce froid matin de novembre. Au dehors, à première vue, rien de particulier. Dans la pénombre, il distinguait les bateaux du port qui se laissaient gentiment balancer par la houle en attendant le grand départ pour l'Orient ou l'Amérique. Les couleurs de la nuit ont commencé à pâlir, à s'éclaircir. Claude, toujours accoudé à la fenêtre, observait ce spectacle. Ses yeux décomposaient les nuances de l'aube. Ça le passionnait. C'est comme s'il assistait à la naissance d'un nouveau jour. L'air froid, ayant fini de retirer de ses yeux les dernières particules de lumière, de sommeil, pardon, il fut assez éveillé pour empoigner ses pinceaux. Il lui fallait peindre urgemment, peindre cette danse des couleurs du ciel. Dans le port du Havre, il y avait tant de brume. Cette brume d'hiver plane à la surface de l'eau avant de s'évaporer dans le ciel. Une brume qui filtre les rayons au point de donner au soleil une couleur de sang, un rouge éclatant. Voilà. Merci de... Voilà, super, merci beaucoup. Ce point rouge sur ce fond gris peint par Claude Monet est l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de la peinture du XIXe siècle. Plus d'une année après, en 1874, ce tableau nommé « Impression soleil levant » a été exposé dans le cadre d'une exposition de peintres anonymes. Un critique d'art, peu enclin à voir les codes classiques de la peinture changer, passa devant « Impression soleil levant » et se moqua. Il s'écria « Que représente cette toile ?» Impression ? Impression, j'en étais sûre. Je me disais aussi, puisque je suis impressionnée, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et c'est dans ce ton ironique qu'il titra son article par la suite, L'exposition des impressionnistes. Voilà comment un vaste mouvement de la peinture a été nommé, l'impressionnisme. L'impressionnisme a révolutionné l'histoire de l'art dans le travail de la composition et de la modulation de la lumière, en rendant célèbres des peintres comme Monet, Van Gogh ou encore Renoir. Impression soleil levant, c'est une question de captation de la lumière d'un jour nouveau. Et c'est pour cela que je voulais vous présenter ce tableau avant de nous plonger dans un texte qui parle aussi de lumière du jour. Un texte biblique qui se passe également dans le décor d'un port, un autre port, celui de Thessalonique. Je vous invite à lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 11. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. Car vous savez très bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix et en sécurité. C'est alors que, tout à coup, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte. Personne n'y échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous êtes des personnes qui vivent dans la lumière, qui vivent en plein jour. Nous ne vivons ni dans la nuit, ni dans l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment, et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse, et l'espérance du salut comme casque. En effet, Dieu n'a pas voulu que nous subissions sa colère, mais que nous possédions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort pour nous, afin de nous faire vivre ensemble avec lui et que nous soyons vivants ou morts. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà. La dernière fois, au chapitre 4, Philippe nous a parlé de ce qu'il se passerait au jour de la venue du Messie, pour les vivants, mais aussi pour les morts. Il nous a parlé de résurrection et de vie éternelle. Lors de l'atelier biblique qui a suivi, nous avons eu des échanges vraiment intéressants et profonds au sujet de la mort. Et je vous donne à mon tour rendez-vous mardi soir prochain, pour un temps d'échange de grande qualité. Je ne sais pas vous, mais moi, ces thèmes sur la fin du monde me mettent toujours un peu mal à l'aise. Il y a une certaine crainte qui pourrait, c'est vrai, être nourrie par des films apocalyptiques que j'ai vus, mélangés par mon imagination débordante à créer des scénarios plus désastreux les uns que les autres. Alors, pour pouvoir aborder ce texte, j'ai dû mettre de côté un bon paquet de mes idées préconçues qui peuvent venir obscurcir la beauté de ce texte. En fait, tout est question de lumière. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un jour de lumière. Le jour du Seigneur, c'est un jour de lumière. Le jour du Seigneur, c'est un thème qui traverse toute la Bible. Et il est important de se rappeler de quoi il s'agit. Avant toute chose, nous parlons d'un jour victorieux et non d'un jour de terreur. C'est la bonne nouvelle d'un jour de délivrance, de libération, où le règne et la justice de Dieu s'exerceront sur toute la terre. Une justice offerte à l'ensemble du peuple de Dieu. Le jour où le libérateur arrivera, tout sera différent, car tout sera rétabli. Et la justice sera enfin rendue pour les vivants et pour les morts. C'est un jour brillant et éclatant. Les mots du prophète Ésaïe viennent aussi nous éclairer, alors qu'il donne de l'espoir à tout un peuple menacé d'exil et d'extermination. Lève-toi, brille. Ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre le peuple. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. C'est un jour de triomphe, un jour de lumière qui a la victoire sur l'obscurité. Chaque libération dans l'histoire biblique est perçue comme la promesse d'une délivrance totale et définitive. Un jour où le Messie viendra pour sauver son peuple. Un jour tant attendu, comme l'aurore après une trop longue nuit. Au temps de Jésus, le peuple croulait sous le poids de Rome et des guerres civiles qui n'attendait que la délivrance glorieuse. Jésus, pourtant, ne s'est pas présenté comme un grand guerrier. Il est venu humble, humblement humain. Car c'est dans la modestie que réside la toute-puissance de Dieu. Il fallait savoir où porter le regard pour se rendre compte que Dieu était intervenu dans la personne de Jésus. En le faisant exécuter, les têtes pensantes du pays, les politiciens, bref, les acteurs du théâtre de la nuit, se sont sacrément mis le doigt dans l'œil. Ils se sont trompés en pensant pouvoir contrôler le plan souverain de Dieu. Car Jésus a ouvert une brèche dans l'obscurité du monde. Le pouvoir des ténèbres est condamné à disparaître sous l'éclat de la lumière. Car à l'aube du troisième jour, à la résurrection, un monde nouveau avait été créé. Une porte vers l'éternité s'est ouverte à quiconque souhaite ouvrir les yeux à la lumière du jour. Ouvrir les yeux, se mettre en route vers une terre de promesses auxquelles nous sommes tous et toutes conviés. Pourtant, même affaibli, le mal continue d'agir dans ce monde au travers des hommes notamment. L'attirance de l'obscurité est pleine de tentations, en particulier lorsqu'on se sent dépassé par nos souffrances et nos faiblesses. L'obscurité permet de nous cacher, de nous dérober. Elle est propice à la corruption. Elle met le flou dans la tête et fait perdre tout repère. Il n'y a rien de pire que l'obscurité pour céder à la tentation. Et c'est sans doute pour cela que Jésus, alors qu'il passait ses derniers instants avec ses disciples au jardin de Gethsémané, leur a demandé de rester éveillés et de prier pour ne pas céder à la tentation. Peu après, Jésus était arrêté au cœur de la nuit. La suite, nous la connaissons. Les disciples ont pris peur et se sont enfuis loin. Pierre, quant à lui, a lâchement renié Jésus 3 fois de suite. Qu'il est dur de garder courage face à la peur de la mort. La prière est une manière d'entretenir un feu, une lueur pour rester éveillé, pour que la nuit et la peur ne nous étouffent pas. Je crois profondément que c'est dans ce même esprit que Paul demande aux Thessaloniciens de rester vigilants. Les chrétiens n'ont pas à se préoccuper du moment où Jésus rendra sa justice claire et définitive. Ils ont simplement à lui faire confiance que cela arrivera. C'est une promesse de Dieu fiable qui est prouvée par la résurrection de Jésus. Garder les yeux ouverts, rester éveillé, c'est être au travail. Car c'est un travail d'entretien constant, de vigilance permanente, de chasser la nuit au profit du jour. Croire en Jésus, c'est croire que le combat entre le jour et la nuit, qu'entre le combat entre le jour et la nuit, c'est le jour qui sera victorieux. La nuit ne sera pas constante et éternelle. La nuit n'est qu'une couverture qui sera soudainement retirée, d'un coup, comme un voleur dans la nuit. Comme le début des contractions qui annonce à une femme que sa période de gros ventre se termine et qu'une nouvelle aventure commence lorsque l'enfant sera dans ses bras. Choisir de vivre en plein jour, c'est changer de paradigme. Tout est différent lorsque on sait où on va. En demandant de revêtir la cuirasse de l'amour et de la foi, de nous parer du casque du salut. Paul décrit la mise en mouvement d'un soldat qui s'apprête à défendre son royaume. L'espérance, la foi, l'amour sont nos points de repère qui continuent de briller de jour comme de nuit. Des vertus qui sont les antidotes aux plus grandes douleurs de ce monde. Croire en la bonne nouvelle, c'est recevoir la main tendue de Dieu qui vient nous extirper chaque partie de notre être qui a trop longtemps été plongé dans la nuit. Mais s'adapter au jour, ça prend du temps. Prendre confiance, accrocher notre foi à la personne de Jésus ne se fait pas du jour au lendemain, dans la plupart des cas. C'est un travail qu'il me semble toujours aller plus en profondeur. La lumière vient éclairer des zones d'ombre à chaque circonstance de la vie. La foi demande donc de l'entretien perpétuel jusqu'au jour où nous rencontrerons Dieu face à face. Vivre par la foi, c'est un travail à la fois solitaire, mais que l'on peut vivre de manière solidaire. C'est toute la beauté de l'Église. Ensemble, nous nous encourageons, nous prions les uns pour les autres, et cela nous rend plus forts. Nous nous apportons nos témoignages, nos conseils. Et puis aussi, il est important, nous pouvons nous avertir sur les pièges à éviter, afin de ne pas retomber dans la nuit. De faire attention à ne pas se laisser bercer d'illusions, l'illusion des lumières artificielles de la nuit où il n'y a qu'à appuyer sur un interrupteur. Car ce n'est pas ça, vivre en plein jour. Paul dit de ne pas se laisser tromper par les mots « paix » et « sécurité », qui étaient la devise de l'Empire romain. La paix et la sécurité ne s'obtiennent pas par la répression des peuples, comme le faisait l'Empire romain. La paix est un signe du royaume de Dieu, offert à tous les peuples, gratuitement. Vous voyez, le jour du Seigneur, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors ne nous accrochons pas trop aux signes de désastre du monde, car en fait le monde n'a jamais vraiment eu besoin de Dieu, n'a même pas du tout besoin de Dieu pour se bousiller tout seul. En quoi serait-ce un signe de la présence de Dieu, tout ce mal ? Par contre, le monde a besoin de Dieu pour être sauvé. Le salut, la foi, l'amour sont les réels signes de l'avènement du jour du Seigneur. Continuons de les entretenir en nous et dans notre Église. Car tant que nous continuons d'animer la lueur de la foi, de l'espérance et de l'amour, nous sommes nous-mêmes les signes de Dieu dans ce monde. C'est à nous d'entretenir la lueur de l'aube qui un jour s'est révélée en nous. C'est à nous de quitter la nuit pour prendre la direction du jour. Si l'impressionnisme a révolutionné le troisième art, les arts visuels, l'Église révolutionne le sens de la vie. Nous marchons vers le jour éternel. Laissons-nous nous inspirer par le souffle de Dieu, par le mouvement de la vie que le Christ a animé en nous. Prenons les couleurs les plus vives que nous ayons et peignons ensemble notre impression soleil levant. Amen. Je vous invite maintenant à un temps de prière, prière libre. Je vais commencer. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette lumière éclatante que tu es pour chacun de nous. Je te remercie déjà pour le soleil que tu nous accordes aujourd'hui, qui nous fait du bien. J'aimerais aussi te remettre, en particulier Denise, là actuellement, que tu puisses la renouveler dans ses forces, dans son cœur, dans ses pensées, qu'elle puisse être en paix maintenant. Je te remercie pour l'Église que nous sommes, pour les témoignages que nous nous apportons, pour les liens, les amitiés, cette période qu'on a traversée ensemble, même si on était séparés par ce confinement. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse continuer de faire briller cette lumière, savoir l'entretenir. On a besoin de ta sagesse pour cela, Seigneur. Que tu puisses nous guider et nous conseiller. Amen.
penser les uns aux autres, s'aimer, se supporter, c'est peut-être la plus grande pointe de lumière que tu donnes à ton Église, qui devrait effectivement briller afin que les hommes disent « Voyez comme ils s'aiment ». C'est vrai, Seigneur, nous voulons ce matin encore demander pardon pour chaque fois où nous oublions d'être lumière d'amour, lumière de miséricorde, lumière de paix pour ce monde. Amen.
Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. J'avais l'idée de... On ne peut pas faire la scène comme on le faisait. Mais on est ensemble, unis. On est autour de la table. Bon, elle est là, mais un petit peu peut-être éloignée pour d'autres. Mais on est autour de la table. J'avais juste envie de qu'on puisse... commémorer en fait ce temps différemment. Mais je veux juste relire des textes qui me parlent, qui qui évoque quand même, en fait, pourquoi on est là. C'est un Philippien qui dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Lui qui était de condition divine, donc Jésus ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect. Comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qu'à travers ces mots qu'ils viennent de dire, qu'on puisse encore réfléchir, qui nous servons, qui on est à travers Jésus, qu'on puisse prendre ce chant qui m'est affiché, qui dit qu'il est au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, de la nature. Et bien avant, il existait. Et qu'il a été crucifié, qu'il a été seul abandonné pour souffrir pour nous, qu'il a été méprisé, rejeté, mais que grâce à ça, il nous a sauvés, qu'il nous a aimés, la première chose. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée. aller sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé et rejeté, telle une rose, foulée sous mes pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, merci Seigneur pour cette croix. Cette croix où tu as souffert, tu as été, tu as tout accompli. Que nous on puisse être libres, libérés de toute chaîne. Merci pour le cadeau, cette grâce que tu nous donnes. Merci de nous avoir offert ce sang, ce pain qui représente ton corps, ton sang versé pour nous. Merci d'avoir de nous avoir transmis ça, nous avoir, pour se rappeler de cet accomplissement. Amen. Et les annonces. Elisabeth, t'as des annonces. Pardon. T'as des annonces, Elisabeth, ou non? Je sais pas. Ça marche.
Recoucou, c'est moi. La semaine dernière, je vous avais parlé du projet d'essayer de trouver différentes équipes pour s'occuper des enfants pendant l'été. Donc, je vous ai concocté un mignon petit tableau, n'est-ce pas ? Il fait très estival. Et du coup, je pense qu'après le culte, tu vas aller un peu traîner dehors et puis un peu demander, commencer déjà un peu à fabriquer quelques équipes. Des animateurs, enfin, bref, des idées de groupe pour faire passer un excellent été aux enfants de l'église de Mérin. Donc merci à chacun. Elisabeth, c'est ton tour. Tu veux que je prie pour toi ?
Bonjour. Alors, les annonces. Comme Célina l'a déjà dit tout à l'heure, donc mardi soir, il y a l'atelier biblique en ligne, animé par Célina, suite à ce qu'elle nous a apporté pendant la prédication de ce matin. Alors, le lien pour se connecter, il se trouve dans l'actu Mérin que vous avez reçu jeudi. Alors, normalement, vous retrouvez très facilement ce lien. Jeudi, séance du conseil. À 18h, pour que le couvre-feu français, pour que Myriam puisse nous rejoindre, voilà, avant l'heure du couvre-feu. Vendredi, à 17h, aussi l'avant-dernière rencontre du caté. Alors, la dernière rencontre de cette année, cette saison, aura lieu le 18 juin. Et c'est pour moi aussi l'occasion de remercier les personnes qui assure ce caté qui s'occupe de nos jeunes ados. Et alors, merci à Philippe, à Mireille Henniger et à Joël Imhoff qui assure ce service. C'est vraiment très précieux. Vous trouverez le mémo de juin dans les enveloppes au foyer pour ceux qui reçoivent la version papier. Et il sera envoyé demain version électronique, enfin, il sera sur le site demain. Dimanche prochain, culte avec Philippe Monchot. Et bonne nouvelle, suite aux assouplissements qui ont été annoncés mercredi par le Conseil fédéral, on pourra se réunir à 80. c'est 100 maximum ou le 50% de notre capacité d'accueil. Alors pour nous, ce sera 80. Alors c'est déjà une bonne nouvelle, on s'en réjouit. On pourrait être, la liste d'attente sera peut-être moins longue comme ça. Il faudra toujours s'inscrire et porter le masque. Et Philippe est invité demain à participer à une séance de travail au département cantonal de la santé. Alors on espère qu'il y aura des bonnes nouvelles, peut-être encore plus d'assouplissement. Et on vous informera au fur et à mesure des nouvelles mesures ou des nouveaux assouplissements, s'il y en a. Encore pour tout prochainement, mais on espère. Et je vous rappelle aussi que pour pouvoir assurer un accueil à la garderie pendant les mois d'été et après, nous cherchons toujours des personnes qui seront prêtes à assurer ce service. Alors vous pouvez vous annoncer à Anne-Claude Semon, ou si vous ne la connaissez pas, un des pasteurs, ou à moi à la sortie, puis je transmettrai à Anne-Claude. Alors Anne-Claude doit refaire un planning cette semaine, donc si vous savez déjà que vous avez envie de servir, n'oubliez pas, faites-le assez rapidement, c'est le moment. Et vous pouvez déjà réserver la date du 25 juin, et ce jour-là nous aurons un colloque, et nous pourrons le faire en présentiel, donc ce qui est une bonne chose. Et vous recevrez la convocation dans le courant de la semaine prochaine. Un rappel, si vous voulez soutenir donc l'église, il y a une boîte à la sortie sur l'étagère où vous pouvez faire un don par Twint ou sur le compte de chèque de l'église. Merci à tous pour votre générosité qui nous permet d'assurer le salaire, nos pasteurs, l'entretien du bâtiment et de soutenir l'AFRE, les activités de l'AFRE. Chantal, encore une annonce. Merci. Bon dimanche.
Alors, bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de l'avancement du projet du GRC, donc le groupe de recherche du Conseil. On remercie tout d'abord beaucoup Ludovic qui a accepté le rôle de président. La dernière fois, on nous avait demandé si on avait déjà un président. On n'en avait pas encore. Et il le conduit avec brio. Et merci aussi à vous pour avoir participé finalement généreusement, hein, suite à nos petits rappels, vous avez participé généreusement au vote. Et suite au dépouillement, il y a déjà une liste de noms qui sont clairement ressortis. Et nous sommes actuellement en train de contacter ces personnes pour voir si elles seraient intéressées ou non par le poste. Théoriquement, aujourd'hui, elles devraient toutes avoir donné leur premier assentiment ou non. Ensuite, les personnes intéressées ainsi que toutes celles qui restent dans le conseil seront interviewées par nos soins, donc on sera de nouveau par groupe de deux. Et nous arriverons début septembre, donc après les vacances d'été, vers vous avec une proposition pour la composition du futur conseil qui sera de nouveau soumis à votre vote. On se remet à vos prières pour toute cette période de dépouillement et d'interview. Merci.
Je vous invite à vous lever pour le temps de bénédiction finale. Tiré dans les psaumes ce matin. Je regarde vers les montagnes. Qui viendra me secourir ? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine et déjà profitez de ce magnifique dimanche. Emmagasinez le plus de lumière, redonnez-la. N'oubliez pas la protection solaire aussi, mais vraiment soyez bénis et prenez soin de vous. Bon dimanche.